Bonjour à vous, Claude Blanche-Messier.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI. Après sa chute si rapide, Bachar el-Assad serait aujourd'hui en exil à Moscou. Est-ce que cela vous surprend ?
Pas du tout. En effet, Poutine a une sorte de fidélité, c'est-à-dire qu'il reste fidèle à ceux qui l'ont servi, à ses alliés. Il l'a fait avec Yanukovych en Ukraine. Eh bien, il le fait aujourd'hui avec Bachar el-Assad. Il va y avoir un club des exilés, amis de Poutine, peut-être, ouais. À Moscou. C'est tout à fait légitime. C'est en effet fait aussi la condition pour Poutine de maintenir sa crédibilité par rapport à ses alliés.
Oui, il est là l'intérêt pour le président russe et pour la Russie d'accueillir aujourd'hui Bachar el-Assad, président déchu. C'est pour maintenir ses intérêts ?
C'est pour maintenir ses intérêts et surtout pour montrer à ses alliés qu'il a une certaine forme de fidélité et qu'il, les exfiltre pour sauver leur vie, tout simplement.
Oui, on en est là. Hein. Qu'est-ce que l'on sait des relations personnelles entre Bachar el-Assad et Vladimir Poutine ?
Évidemment, elles étaient très fortes parce que ce sont deux dirigeants autoritaires et que Poutine aime bien avoir affaire à des dirigeants autoritaires. Et puis parce que Poutine a sauvé la mise à Bachar el-Assad, au moins une fois, mais en tout cas pendant une assez longue durée.
Oui, depuis 2015, avec certaines interventions.
Et par conséquent, l'alliance et les rapports se sont densifiés. Il y avait des rapports anciens entre la Russie et même l'Union soviétique et la Syrie. Un certain nombre d'officiers syriens avaient été formés en Union soviétique puis en Russie. Il y avait même eu des mariages mixtes. Et c'est d'ailleurs l'un des étonnements de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'armée n'a pas bougé le petit doigt pour défendre Bachar el-Assad.
Oui. Est-ce que les Russes, est-ce qu'on peut dire aussi simplement que ça, que les Russes ont lâché Bachar el-Assad ?
Ils n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire que Bachar el-Assad, tout d'un coup, s'est retrouvé totalement isolé. Et la seule solution pour lui, pour ne pas physiquement disparaître, a été de partir et de demander aux Russes de l'exfiltrer.
Ce choix, est-ce un choix ? Est-ce une obligation ? Le fait que les Russes aient laissé faire, parce que là, ces 10 derniers jours, face aux rebelles islamistes, la Russie a été pratiquement inactive. Alors, est-ce que c'était une obligation face aux événements ou y avait-il véritablement un choix des Russes dans cette stratégie ?
Je crois que les Russes n'ont pas vu venir ce qui s'est passé. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, apparemment.
Oui.
Tout le monde a été très surpris.
Nous en sommes tous là. Hein.
Tout le monde a été très surpris par la rapidité de l'offensive, la facilité de l'offensive. Dans le fond, les gens qui ont conquis Damas sont rentrés un peu partout comme des troupes victorieuses, acclamées par la population. Il y a eu assez peu de combats. Et assez vite, l'armée syrienne et les officiels syriens se sont mis en retrait et ont laissé faire. Alors, ceux qui avaient partis liés avec l'appareil répressif de Bachar ont probablement disparu, eux aussi, pour sauver leur peau. Mais tous les autres, accueillent le nouveau pouvoir.
Oui, et les Russes ont cessé leurs frappes aériennes intensives de ces dernières semaines et oui. Derniers mois, de façon presque naturelle.
Ça n'aurait servi à rien, bien sûr, c'était trop tard. L'arbre était totalement pourri et allait s'effondrer. Et puis je crois aussi que les Russes sont victimes de leur obsession ukrainienne. Les forces russes sont tout à fait omnubilées par ce qui se passe en Ukraine. Et il est très difficile pour la Russie d'avoir deux fronts. C'est même probablement impossible aujourd'hui.
Oui. Est-ce que cette chute de Bachar el-Assad est aussi un échec pour la Russie ?
Bien sûr que c'est un échec pour la Russie. Au début, vous avez parlé de 2015, mais c'est vrai qu'au début, la diplomatie russe disait aux Occidentaux, mais dans le fond, Bachar el-Assad, on n'y tient pas tant que ça. Peut-être qu'on pourrait trouver un accord, un accommodement. Et puis finalement, petit à petit, ils ont pris le parti de le soutenir complètement et jusqu'au bout, parce qu'ils attachaient la plus grande importance à leur implantation militaire. Avec les bases.
Oui, et c'est bien ça la question aujourd'hui. Ce qui préoccupe le plus le pouvoir russe, c'est l'essor des bases militaires en Russie, et notamment la base navale à Tartous, l'accès à la Méditerranée. Est-ce qu'il y a vraiment un péril pour les Russes ? Vous n'êtes pas militaire, mais est-ce que c'est une vraie question qui se pose, une vraie inquiétude du côté du pouvoir russe de perdre ses bases ?
Oui, bien sûr, comme ils n'avaient pas vu venir le coup, eh bien finalement ils ont fait partir un peu au dernier moment les navires qui étaient dans la base de Tartous pour qu'ils ne soient pas faits prisonniers. Tartous, c'est déterminant pour la Russie puisque les autres bases sont en mer Noire et que la mer Noire est fermée à cause du conflit avec le président turc qui est le gardien des traités qui empêche des navires de guerre de franchir les détroits de la mer Noire pendant une période de conflit. Donc c'était Tartous leur seule possibilité d'avoir une base fonctionnant sur la Méditerranée. plus la base évidemment aérienne qu'ils ont créée à Emin.
Oui, donc deux bases très importantes du point de vue de la stratégie russe et la stratégie militaire.
Capital, capital pour eux, et c'est une perte de face en plus par rapport aux autres pays de la région.
Oui, est-ce que la chute de Bachar al-Assad est aussi synonyme de perte d'influence de la Russie dans la région ?
Écoutez, probablement, mais la Russie reste un acteur important dans la région. Il est sûr que c'est une perte d'influence parce que, encore une fois, alors qu'ils étaient tout puissants par l'intermédiaire du régime de Bachar el-Assad, tout d'un coup, ils perdent tout, ils perdent leur relais et on ne sait pas du tout comment ils pourront rétablir des relations avec le nouveau pouvoir.
Vous nous disiez au début de cet entretien que accueillir Bachar el-Assad, c'est une façon de dire aux alliés des Russes, on ne vous lâchera pas, en tout cas pas. Totalement. Est-ce que ça dit tout de même quelque chose de la stratégie d'alliance, des méthodes de Moscou et du Kremlin, de la fragilité de la Russie vis-à-vis de ses soutiens ?
Oui, encore une fois, Poutine est fidèle d'une certaine manière, de la même manière qu'il avait d'ailleurs exfiltré son ex-maître, le premier maire libéral de Saint-Pétersbourg, Sobchak, quand Sobchak avait des petits ennuis judiciaires, il l'a exfiltré. Donc il a une forme de fidélité aux gens qui sont proches de lui. Mais là, sur le plan géopolitique, c'est une fidélité à Bachar, et par conséquent Bachar qui était l'homme de l'influence russe en Syrie et dans la région.
Comme nous tous, et vous le disiez, vous avez été surpris par cet effondrement rapide du régime, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'une dictature s'effondre, on est surpris de sa fragilité. Est-ce que, on ne parle pas de dictature, mais est-ce que pour Vladimir Poutine, ce qui s'est passé en Syrie peut être un motif d'alerte ou d'inquiétude.
Oui,
c'est d'ailleurs... De façon personnelle, hein, j'entends, pour son pouvoir.
C'est d'ailleurs, si vous le permettez, assez rassurant. C'est-à-dire que le pouvoir est fragile. Il repose surtout sur la croyance que les gens qui sont sous la coupe de ce pouvoir ont dans le pouvoir. Et si tout d'un coup, cette croyance s'effondre, eh bien, le pouvoir n'existe plus. Sauf s'il y a un outil de répression. L'outil de répression... En Syrie, n'a plus fonctionné. L'armée s'est tenue en marge des événements. Et par conséquent, tout d'un coup, le pouvoir s'est effondré. Alors, je crois que Poutine est très attentif à ça. C'est un spécialiste des questions de pouvoir. Il est depuis un quart de siècle au pouvoir et il sait que son pouvoir est fragile. Il a eu très peur...
Il est si fragile que ça, le pouvoir de Poutine, Claude Blanche-Maison.
Il a eu très peur des révolutions de couleur dans les pays, de l'entourage de la Russie. Ça lui a fait très peur parce que ça lui a montré qu'en effet, un pouvoir pouvait disparaître par la volonté populaire très rapidement. En Russie, ça n'est pas le cas parce qu'il est populaire encore. Il a des sondages qui montrent que, dans le fond, le pays le soutient. Même si il commence à y avoir des doutes sur cette guerre stupide en Ukraine, non pas stupide, mais qui cause tant de morts des deux côtés.
Qui coûte si cher en vie humaine et à l'économie russe.
Et qui fait que l'économie russe est en train de quand même en subir les conséquences. On a beau dire qu'elle est résiliente, la résilience, elle tient surtout au fait qu'il a lancé la machine militaro-industrielle. Et c'est ça, la production russe actuellement, au détriment des biens de consommation, au détriment du pouvoir d'achat, au détriment du rouble. Il a la chance d'avoir une directrice, une gouverneure de la Banque centrale qui est assez habile, assez compétente, mais le rouble s'est effondré. Et en effet, l'économie russe est en train de subir les conséquences de cette guerre en Ukraine. Donc le pouvoir est fragile.
Merci Claude Blanche-Maison d'être venu ce matin, nous avoir apporté votre éclairage, votre expertise, votre connaissance de la Russie sur ce qui s'est passé en Syrie. Vous reviendrez nous parler de la guerre en Ukraine. Je sais que c'est le sujet qui vous préoccupe le plus. À très bientôt sur RFI.
Merci à vous.